Il y a 70 ans, la liaison entre deux navires se réalisait grâce aux ondes électriques.
Où en est la chanson ?
On chante de moins en moins français sur nos ondes.
La TSF, cette invention qui allait devenir plus tard la radio.
Si ce n'est pas elle qui te réveille le matin d'une voix langoureuse, alors c'est celle qui t'accompagne dans la douche lorsque l'eau chaude te sort des derniers marasmes d'un sommeil réparateur. Ou alors c'est ton café que tu vas recracher par le nez après une énième vanne d'un humoriste plus ou moins drôle, des fois on va le dire. Et si tu quittes ton appart clé de voiture en main, c'est pour mieux faire la route ensemble en l'écoutant coincé dans les bouchons. Partout, tout le temps, elle te suit, elle t'informe, elle te susurre à l'oreille, du matin jusqu'au soir. Tu l'écoutes en podcast, dans ton casque, ça couvre même le bruit du métro et te fait oublier l'odeur de vestiaire de cette ligne 13 toujours bondée. Tu es fauché, t'as pas Canal ou Bein Sport et t'en as marre des bars remplis de supporters insupportables. C'est encore elle qui va te faire vivre la finale du siècle d'un Roland-Garros ou d'une Coupe du Monde. T'as 12 ans, ta mère a éteint la lumière, demain c'est école et pourtant, caché sous ta couette, tu veilles, t'écoutes des bêtises et des cochonneries, des histoires de garçons et de filles qui découvrent leur sexualité comme toi. Et dans 70 ans, tu auras 80 ans et tu seras encore collé au poste pour entendre des critiques intello s'écharper un dimanche soir sur le dernier film d'auteur sorti sur 3 écrans du quartier latin ou alors sur la dernière pièce de théâtre au Châtelet. Ça dépend des semaines, c'est une semaine sur deux. Tu l'as deviné, cher auditeur, cet ami, cette boîte à blabla inusable, c'est la radio, toi tu l'écoutes, nous on l'a fait, et aujourd'hui, après la journée mondiale des chatons et avant celle du rhume des foins, c'est elle qui est à l'honneur, et sur Radio Campus Paris, on est avec toi, toute cette soirée bien sûr, mais aussi demain, la semaine prochaine, l'année d'après, et plus encore.
Mais qu'en est-il de l'écoute de la radio par les jeunes d'aujourd'hui, à l'heure où tout est numérique, et où on surconsomme les images sur Internet ?
Michael, l'émission sans interdit.
Parce que d'abord, j'ai pas la télé. Et je pense que j'ai des parents qui m'ont mis dans une habitude d'écouter la radio pendant que je fais la cuisine, la vaisselle, pendant tout ce qui se passe dans le salon, j'écoute la radio. Non, c'est vrai.
Bah, comme je vis chez ma mère, la radio elle est un peu toujours allumée. Je suis souvent en voiture pour bouger de droite à gauche. C'est pas moi qui conduis, mais je suis quand même dedans. Et là, du coup, on se fait des sessions France Culture, France Inter. Et c'est super intéressant, mais c'est juste une question de réflexe, je pense. Et...
Ouais, là, moi aussi, la radio, c'est beaucoup mieux que la télé. Parce qu'en fait, quand vous regardez la télé, vous êtes plus passif qu'actif. C'est-à-dire que vous regardez, en même temps, il y a l'image et le son. Donc le cerveau va être beaucoup moins réceptif aux informations, beaucoup moins analytique et beaucoup plus consommateur d'informations.
Du coup, oui, j'écoute la radio. J'écoute la radio dans ma chambre, dans ma salle de bain. Quand je me prépare le matin et quand je me douche. Parce que j'aime bien, parce que ça fait un fond sonore, un fond musical.
En octobre dernier, Médiamétrie a sorti une étude sur le comportement des jeunes et de la radio avec l'idée, je cite, que le souffle du numérique renforce l'attrait des 13-24 ans pour la radio. Je vous ferai un bref topo. Selon l'étude, les jeunes de 13 à 24 ans représentent quand même 9 millions de personnes et ils écouteraient toujours autant la radio que leurs aînés puisque sur la saison radiophonique 2013-2014, 79% d'entre eux auraient écouté la radio au moins une fois par jour. Sans faire de la sociologie de comptoir, en bon apprenti sociologue que je suis, il est indéniable de voir qu'il y a une certaine socialisation à l'écoute de la radio. Quand on est jeune, on écoute la radio car au fond, c'est une habitude de notre foyer. On est habitué à un fond sonore d'une station d'information qui reste allumée toute la matinée. Et c'est d'ailleurs sur ce point que les habitudes ne changent pas. Le pic d'écoute est à 7h30 du matin pour les 13-24 et c'est même un peu plus tôt que la moyenne, tout âge confondu, qui est aux alentours de 8h, 8h30.
La fameuse matinale.
La fameuse matinale. Et bien sûr, deux autres pics à 17h en rentrant des cours, en gros, et de 20h à minuit pour les libres antennes. En fait, le changement, il se fait évidemment sur les supports, car il n'y a jamais eu autant de supports d'écoute qu'aujourd'hui. Tablettes, smartphones, iPod, web et même TV. Oui, j'ai appris que la télé était le troisième support numérique d'écoute de la radio, ce qui est assez comique vu la concurrence télé-radio.
Quel intérêt.
Puis, sans surprise, les classiques, le transistor, la chaîne IFI et l'autoradio. Écouter la radio en voiture reste un grand classique. Je dois vous avouer que j'ai trouvé le tableau dressé par Médiamétrie plutôt flou et positif dans un sens presque enjoliveur de la réalité. Je pense qu'effectivement, une grande partie des jeunes écoutent la radio et écouteront toujours la radio, mais certains n'y trouvent pas leur compte et c'est bien dommage.
Parce que j'ai pas le temps d'écouter la radio. Je préfère écouter mon iPod ou la musique sur mon téléphone.
J'écoute pas trop la radio, moi, sûrement. Parce que souvent, quand j'écoute la radio, c'est pour écouter de la musique. Et ça me frustre quand j'entends des musiques et qu'on me donne pas le titre.
Ouais,
donc, du coup, je vais souvent écouter ma musique sur Internet plutôt à la place, parce que comme ça, j'ai le titre. Mais sinon, les infos, en général, j'évite. Je trouve ça un peu répétitif. Parce que je suis pas chez moi en fait, j'écoute la radio quand je suis pas chez moi, généralement.
Alors je n'ai jamais été trop habituée à écouter la radio. Et pour moi c'est comme, c'est juste du son, il n'y a pas de... Enfin, que ce soit image ou lecture ou quoi que ce soit, c'est une pratique que j'ai pas l'habitude de connaître. Voilà.
Comme on vient de l'entendre, certains ne trouvent pas le temps d'écouter la radio, d'autres n'y voient pas la richesse qu'ils pensent trouver sur Internet, d'autres n'ont simplement jamais pris l'habitude de ces types de médias. Et je dois dire que ça me fend le cœur. Oui, ça me fend le cœur, car c'est la richesse de la radio, sa diversité. Qu'importe ce que tu as envie d'écouter, tu peux trouver. Du reportage sur les corbeilles à l'orge en osier d'Auvergne, aux derniers résultats de la bourse en passant par les talk shows, tout le monde y trouve son bonheur. Et je voudrais dire à ceux qui n'écoutent pas la radio qu'ils ont tort. Bon, du coup, ils n'entendront pas mon appel. Que dis-je ? Ma déclaration d'amour à la radio, cet amour qui a commencé avec Radio Notre-Dame et qui continue avec Radio Campus. Pas de moquerie les enfants, je vous assure que les Notre Père ou les Je vous le salue Marie en boucle, c'est le meilleur somnifère sonore. Alors voilà, bien sûr que 78% des auditeurs de 13 à 24 ans n'écoutent que des radios musicales, mais c'est le début d'un champ infini de possibilités.
Merci beaucoup Laura pour cette déclaration d'amour à la radio, déclaration salutaire, vraiment. Merci beaucoup Laura.
Oh, c'est magnifique!
Alors, avant de se projeter vers le futur, petit voyage dans le passé, Sébastien Poulain, je me tourne vers vous. Vous avez rédigé une thèse sur les radios alternatives. Et peut-être qu'on peut rapidement revenir sur leur naissance. Il y a 600 radios associatives environ en France, un chiffre à la louche. Chiffre impressionnant, mais depuis quand ça existe? Et très rapidement, en quelques mots, comment c'est apparu ces radios?
Alors, justement, en France en tout cas, ça commence un peu avec une campus, à Lille. Donc elle avait de l'avance.
La plus vieille des radios campus. Ouais, elle a 30 ans, ça Nicolas ?
Plus, non, 69.
69.
69, voilà.
Joli chiffre.
Et donc c'était des étudiants au sein de l'université Lille. Donc voilà, donc déjà ça commence par ça. Mais ensuite le mouvement vraiment se développe à partir de 77. Il y a les radios vertes, des radios comme ça. Bon, donc on appelle ça les radios libres, pirates, ça dépend qui parle en fait. Ceux qui aiment les radios, ils parlent de radio libre. Ceux qui n'aiment pas, ils parlent de radio pirate.
Hein. Ça apparaît après la libéralisation des ondes, c'est ça ? Alors, on a ouvert les ondes à ces radios.
Alors, d'abord, c'était des radios qui n'étaient pas autorisées.
Et pirates.
Pirates. Et donc ensuite, Mitterrand a autorisé les radios. Et donc là, on a commencé à faire de l'administratif, du légal, et donc à les appeler radios locales privées. Et au sein des radios locales privées, il y a les radios associatives qui sont apparues parce qu'il y a toujours eu des tensions entre la dimension commerciale et associative. Et la question du financement, vous avez commencé à en parler tout à l'heure.
Il y a des chances qu'on en parle.
Oui, c'est important quand même. Bah, oui, faut bien l'animer. Et c'est vrai qu'il faut de l'argent pour animer une radio.
Et du coup, ça se passe comment cette période concrètement ? Je sais qu'il y a des radios assez incroyables qui ont marqué un peu l'histoire. Je pense à Carbone 14, qui était la radio qui t'encule par les oreilles pour ceux qui ne connaissent pas, qui était une radio complètement folle. Il y avait Radio Ivre aussi, qui est devenue Radio Nova ici à Paris. C'était quoi cette période ? Je ne sais pas si vous l'avez vécu, etc. Comment
bon, moi, non.
Non, Frédéric Rangon.
Non. trop jeune.
Frédéric Rangon, Sébastien Poulain, peut-être.
Non.
C'était des jeunes, hein, déjà. C'est un peu pas les geeks d'aujourd'hui, mais c'était un peu l'esprit qu'on a retrouvé ensuite avec les sites internet, quoi. Donc c'était la jeunesse, des gens plutôt de pas de bonne famille, je dirais ça, mais des catégories socio-professionnelles plutôt supérieures. Donc plutôt des étudiants qui ont du temps, qui ont assez d'argent pour faire vivre une radio en donnant beaucoup de temps libre, qui n'ont pas encore un emploi, quoi, parce que c'est sûr que 24 heures animer une radio 24 heures, ça prend du temps. Donc ça commence par aussi des militants, des gens qui ont des causes un peu à défendre ou des musiques qu'ils ont à défendre, des musiques qu'on n'entendait pas sur les autres radios. Mais il faut dire quand même qu'à l'époque, il y avait 4-5 radios avant que les radios libres arrivent. Hein. Il y avait 4-5 radios, des radios commerciales comme RMC, hein, qui existe toujours, tout ça.
Europe 1, qui était basée en dehors de France, à Monaco, à Luxembourg.
Radio périphérique, on appelait ça, parce qu'elles émettaient à la périphérie de la France. Et donc, il y avait vraiment très peu de choix. C'est incomparable avec aujourd'hui, avec la RNT qui est arrivée en plus, mais avec et puis évidemment le web. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait très peu de choix. Et donc, la jeunesse a voulu avoir quelque chose de nouveau dans la suite un peu de mai 68 aussi.
On a l'impression qu'il y a un côté geek fait un peu dans son garage. Oui. Toi, Nicolas, peut-être un peu plus tard, t'as fait ça, toi, des choses comme ça, des choses faites un peu tout seul en web plutôt ?
L'internet, c'est pas loin d'être le premier. Hein. Il y avait déjà des gens qui faisaient des choses, mais c'est vrai que d'un coup, on pouvait très facilement créer un flux avec des technologies qui sont toujours d'ailleurs à peu près les mêmes, même le streaming, quoi, le flux audio. Mais je pensais surtout à une anecdote, enfin une espèce de légende de la radio que moi je connais un petit peu dans l'est de la France. Alors c'est, je dis bien légende parce que je ne sais pas si tout est vrai, mais effectivement tu parlais tout à l'heure de Radio Verte et il y avait c'était assez marrant parce qu'il y avait Radio, je crois qu'elle s'appelait Radio Verte et c'était un collectif franco-allemand de gens qui étaient vraiment entre guillemets des adorateurs de technologie aussi parce qu'ils fabriquaient eux-mêmes l'émetteur, ils grimpaient au sommet des Vosges pour diffuser et l'objet de leur mobilisation était d'empêcher voilà la construction ou la mise en place, la mise en route de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Ouais. Ouais, c'est exactement ça.
En 1977, on a annoncé Radio Verte au mois de février, et le 13 mai, on a pu commencer les émissions un peu de manière spectaculaire. On a réussi à faire un reportage télévisé sur la première émission. Il y a eu beaucoup d'articles de journaux pour lancer non pas seulement Radio Verte, mais le mouvement des radios libres, c'est-à-dire Radio Verte étant annoncée comme la première d'un vaste mouvement partout en France où les radios allaient se mettre à fonctionner au nez à la barbe des autorités. C'était un combat politique pour la liberté d'expression sur les ondes et contre l'exclusivité du monopole. Hein, parce qu'il ne faut tout même pas oublier qu'à l'époque, à minuit, tout s'éteignait sur la FM et on entendait la Marseillaise à minuit et c'était terminé. Et il y avait énormément de place. Donc connaissant la situation en Italie, on trouvait complètement invraisemblable que l'exclusivité de ce monopole qui se partageait avec les radios périphériques de manière tout à fait scandaleuse. Au départ, Radio Verte, c'était une radio un peu militante, un petit peu politique, mais c'était une radio aussi musicale. Mais les seuls qui ont accepté de nous soutenir avant le lancement, parce que c'était quand même assez risqué, on risquait la prison, ce sont les écologistes avec Brice Lalonde. Brice Lalonde nous a demandé que la radio s'appelle Radio Verte et qu'elle soit, parce que les écologistes nous soutenaient politiquement. Donc c'était au départ une radio qui traitait de l'écologie. On n'avait rien contre, enfin on n'était pas des écologistes enragés, mais c'est pour ça qu'elle s'est appelée Radio Verte.
Alors justement, ça nous fait rire en plateau. Nous ont rejoint Clémence et Juju, bonsoir.
Bonsoir.
Donc Alexandre, vous restez avec nous. Et on parle, et là on a quelques minutes, enfin même quelques dizaines de minutes, pour parler justement de Radio Debout. Alors Radio Debout, comment ça s'est créé en fait? Alors on imagine que c'est dans le cadre de Nuit Debout, mais quelle est la genèse de cette radio?
La genèse, c'est des gens en fait qui à un moment donné se disent, traversent cet événement de Nuit Debout et se disent bon bah là qu'est-ce qu'on fait, on aime le son, c'est des gens qui adorent le son, des gens qui aiment la radio, qui se réunissent, qui cherchent du matériel chez eux et qui commencent à imaginer en fait un dispositif radiophonique à ciel ouvert et qui investissent la place à un moment donné, comme ça, et qui font appel aux gens. Et puis de plus en plus, ça a grossi. Et puis là, on est un collectif d'une quarantaine de personnes, je pense, aujourd'hui. Voilà.
Et alors, au départ, on entendait justement en préambule Antoine Lefébure qui parlait des radios pirates. Ça, c'est un peu vos sources d'inspiration ou pas du tout? Cette radio un peu Radio Debout qui est la radio éphémère, radio indépendante.
Moi, je dirais pas du tout que c'est mes sources personnelles, mais je pense qu'on a tous des sources différentes. Mais moi, je me sens beaucoup plus proche de, alors par exemple, d'émissions comme Democracy Now aux États-Unis qui cherchent vraiment à donner la parole à des individus pris dans l'histoire, mais que ce soit justement pas du tout des spécialistes, mais des individus qui vivent quotidiennement tout un tas de problèmes, tout un tas de choses, que ce soit aux États-Unis ou en Afghanistan, mais qui laissent la parole à ces gens-là, ou des émissions comme encore plutôt aux États-Unis, comme les Radio Diaries, qui sont des émissions où vraiment des gens qui ne sont pas des gens des médias, qui ne sont pas des journalistes, peuvent prendre la parole, peuvent s'exprimer sans être spécialistes d'une question. Ils sont simplement spécialistes de leur propre vie et sont capables, à partir de leur sensibilité, de raconter ce qui les touche dans une situation, dans un événement ou dans une confrontation politique.
Et vous, Clémence, du coup, c'est les mêmes sources d'inspiration également? Pas vraiment de source d'inspiration.
Je sais pas trop. Enfin, c'est sûr que c'est toujours derrière qu'on y pense toujours, mais effectivement, je rejoins Alexandre là-dessus. C'est donner la parole en fait aux trajectoires, quoi, aux gens qui passent, donner la parole à cette parole qui est en mouvement. Et là, avec Nuit de Bon, on s'est rendu compte qu'il y avait cette nécessité de parler aussi en place publique, même si Radio Debout n'est pas une radio qui a été créée par une commission, voilà, c'est pas du tout ça, c'est une radio complètement indépendante et libre. Elle a quand même ce but-là de faire parler les gens qui sont en circulation sur la place. Voilà.
Donc ça se veut quand même l'écho du mouvement La Nuit Debout.
C'est l'oreille.
C'est l'oreille.
De Nuit Debout.
Oui, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Sur les retours qu'on a des auditeurs, par exemple, c'est assez intéressant. Les gens nous disent, bon, bah, on vous suit, voilà, on est avec vous dans la place. Et c'est vrai que nous, on relaie aussi tout ce qui se passe sur cette place publique. Quoi. C'est vraiment ça. C'est...
Mais je crois finalement qu'on a un mouvement qui ne veut pas de figure. On en entend parler depuis un long moment, vous voyez. Donc il y a pas un écho. C'est là encore où nous, on n'est pas une radio de propagande. On propage pas ce qu'il y a sur la place parce que il y a pas une voix dominante. Et on pourrait parler des échos, vous voyez. Et donc nous, on essaye d'être, c'est très bien dit, d'une oreille, en fait, d'écouter ce qui se passe. Mais il n'y a pas une seule ligne, comme le disait Clémence, il y a des trajectoires. Et en fait, on essaye d'être sensible à ces trajectoires et de pouvoir leur donner une voix. Mais ça veut dire qu'on est dans un discours qui n'est absolument pas cohérent. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont raconter quelque chose, d'autres qui vont raconter une autre chose, mais toujours en partant de cette... On part de cette place. Vous voyez, on l'écoute et on part de là, mais simplement les discours vont être complètement différents. C'est pour ça qu'on s'est toujours totalement défendu d'être la voix de la place de la République, où on est les voix, si vous voulez, mais c'est pas la même chose.
Voici la Podcaf Express, la première capsule de café expresso avec émission podcastée intégrée. Grâce à cette invention, vous pouvez écouter ou réécouter vos programmes favoris pendant votre pause. Pour l'utiliser, c'est simple, il suffit, comme avec une capsule classique, de l'insérer dans une cafetière automatique, comme ceci. Vous attendez que votre tasse soit servie. Et lorsque vous retirez la capsule, vous pouvez entendre la radio en rediffusion grâce à un haut-parleur miniature logé dans un compartiment de la dosette. Bien sûr, il existe toute une gamme de saveurs et d'émissions que vous pouvez changer tous les jours. Voilà, c'était une démonstration des Podcaf Express, les premières capsules de café instantanées avec podcast intégré.
Et donc, je trouve que le podcast apporte quelque chose parce que ça reste. C'est vrai que moi, je suis allé dans plusieurs émissions et c'est vrai que ces émissions, c'était à des heures où les gens que je connais n'écoutent pas la radio, ne peuvent pas parce qu'ils sont au travail. Et par contre, ils ont pu écouter l'émission le soir ou le lendemain. Et c'est vrai que ça doit se retrouver dans plein d'émissions. Donc, ceux qui ont les moyens de faire du podcast dans les radios associatives aussi, ça permet d'agrandir un peu l'audience, je pense.
D'accord. Et cette RNT, du coup, Nicolas, par exemple, ça peut être cette solution-là ?
Bah, c'est surtout de garder une continuité avec la radio hertzienne, libre, gratuite,
anonyme,
etc. Mais c'est la ressource publique, quoi. Enfin, ça nous appartient, le hertzien. Alors si on décide de plus y aller, ils vont revendre ça à des opérateurs privés de téléphonie, comme ils ont déjà fait.
La bande FM va-t-elle un jour disparaître ? Mi-avril, la Norvège a annoncé qu'elle prévoyait de se débarrasser de ses vieilles ondes dès le 11 janvier 2017. Non pas pour tuer la radio, mais pour laisser place à la RNT, la radio numérique terrestre. Alors si ça vous dit rien, les Norvégiens, eux, connaissent déjà ce mode de diffusion depuis 20 ans. En France, quelques radios, dont Radio Campus Paris, émettent depuis un an à Paris, à Nice et à Marseille. Un premier anniversaire qui va se fêter discrètement. Et pourtant, la RNT semble se développer timidement, doucement, à l'ombre des grands groupes et de leurs intérêts. Mais alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça change pour vous et pour le paysage radiophonique français? On en parle dans quelques instants avec nos invités. Et en seconde partie d'émission, on continuera à parler de la radio du futur, la radio 2.0, la radio sur Internet. Que proposent les web radios aujourd'hui, 20 ans après la création de la toute première web radio française, Radio HK? Des milliers se sont créés. Alors nous, à Radio Campus Paris, on aime le dire, et ben on faisait partie des premiers en 98. Et depuis quelques années, on observe une nouvelle émergence des web radios créatives avec des lignes éditoriales marquées, défricheuses de nouveautés musicales, prescriptrices en culture urbaine. Non, il n'y a pas que Radio Campus Paris. On sera tout à l'heure avec les membres de Radio Piaf et du Mélotron. Brouillage. On commence sans plus attendre cette émission. Salut Loïc.
Salut Elsa.
Alors toi au moins tu es là. Loïc, tu es membre de la rédaction de Radio Campus Paris. Et donc tu es là pour m'accompagner et pour interroger nos premiers invités sur ce merveilleux sujet qu'est la radio numérique terrestre. Alors avec nous autour de la table, eh bien, il y a des absents. Mais on va commencer avec ceux qui sont là. Valère Coréard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc directeur du département média du groupe SOS et de la radio Rage. Donc c'est une radio qui, comme Radio Campus Paris, est en RNT aussi dans certaines villes depuis un an. Vous avez écrit plusieurs tribunes et vous avez aussi, avec le groupe SOS, commandé une enquête d'opinion sur les Français et la RNT. On en parlera tout à l'heure. Alors avec nous également au téléphone, je crois, Pierre Montel.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir Pierre Montel. Donc vous êtes délégué général du syndicat national des radios libres et qui rentre tout juste dans le studio. Il est en retard, mais il est là. Patrice Gélinet, membre du CSA, ancien directeur de France Culture et producteur de la mythique émission 2000 ans d'histoire sur France Inter. Bonsoir Patrice Gélinet.
Bonsoir. Oui, je suis en retard, comme la RNT, mais j'arrive quand même.
Voilà.
Comme la RNT.
Vous pouvez récupérer votre souffle, installez-vous. Mais je voulais quand même vous poser en fait la première question. Alors ça va être d'emblée un peu difficile comme ça, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots et expliquer à nos auditeurs, parce que je ne sais pas si j'ai été très claire, c'est quoi la RNT en fait?
La radio,
on parle de quoi?
Terrestre, c'est simple, c'est l'équivalent au fond pour la radio de ce qu'est la TNT en télévision. Et elle présente un très grand nombre d'avantages, c'est-à-dire une qualité sonore qui est formidable. Je reprends mon souffle parce que
allez-y,
je viens d'arriver en cours.
Vous pouvez souffler, tout le monde est
et
là.
Et une qualité sonore qui est formidable. Si vous écoutez de la musique sur la radio numérique terrestre, eh bien, c'était l'équivalent d'un CD. C'est également, ça permet des données associées. C'est-à-dire qu'on peut, si sur des radios RNT munies d'un écran, on peut voir des images, on peut voir la photo du disque qu'on est en train de passer, on peut voir des informations sur le chanteur qui est en train de chanter. Ça présente aussi un certain nombre d'avantages, et dont un qui est très important, c'est qu'actuellement, la bande FM, comme on l'appelle, la bande FM est saturée. Il n'y a pratiquement plus aucun moyen pour les radios de se développer ailleurs que soit sur Internet, soit sur la bande de fréquence qui est accordée à la radio numérique terrestre et qui est vierge. Donc ça permettra effectivement à des radios, notamment des radios qui ont des ambitions nationales, de pouvoir se développer sur l'ensemble du territoire. Il y a des tas de radios, même des radios déjà bien installées, mais qui ne sont pas présentes dans certaines villes, faute de place sur la bande FM. Et enfin, dernier avantage, et ça j'essaie d'en convaincre même les adversaires de la RNT, elle est très économique. C'est quoi la radio numérique terrestre? C'est en FM, sur une fréquence, vous avez une radio. Et en RNT, vous avez des multiplex, c'est-à-dire que sur la même fréquence, vous pouvez avoir jusqu'à 13 radios, ce qui est le cas dans les endroits où nous avons déployé la RNT à Paris, Marseille et Nice. Autrement dit, c'est comme une colocation. Plus vous êtes de locataires, moins ça coûte cher. Donc elle est plus économique que la FM et elle est nettement plus économique qu'un mode de diffusion qui est ancien et qui s'appelle les grandes ondes et qui coûte des fortunes pour une qualité sonore qui est très mauvaise.
Alors Patrice Gélinet, aujourd'hui, concrètement, quelle est l'offre proposée sur la RNT dans les villes Paris, Marseille et Nice depuis juin?
Actuellement, vous avez une centaine de radios qui ont été autorisées et qui ont démarré il y a exactement un an, tout, presque exactement un an, pas tout à fait, le 20 juin de l'an dernier. Et ces radios, effectivement, peuvent être entendues à Paris, Marseille et Nice. Ce qu'il y a, c'est que, je crois vous avoir entendu le dire tout à l'heure, c'est une arrivée discrète dans ce qui est une véritable révolution. Hein. C'est une révolution aussi importante, à mes yeux, qu'a été la FM il y a 30 ans. C'est brusquement, c'est une libération des ondes. Et là-dessus, donc on peut entendre la RNT dans ces trois villes. C'est peu connu. Il y a relativement peu de postes qui sont encore de récepteurs qui sont encore disponibles, mais on les trouve quand même dans les grands magasins. Mais surtout, ce dont souffre la RNT actuellement, c'est surtout justement la méconnaissance du sujet. Très peu de Français, je crois que les trois quarts des Français ignorent ce qu'est la RNT. Ils utilisent tous la TNT pour regarder la télévision. Ils ignorent qu'il y a un équivalent en radio qui s'appelle la radio numérique terrestre.
On en reparlera tout à l'heure. Je voulais poser une question à Pierre Montel qui est au téléphone avec nous et à vous, Valère Correa. Vous, en tant que représentant de plus petites radios, c'est quelque chose que vous attendez, que vous attendiez depuis longtemps, la RNT. Vous voyez ça aussi comme une révolution ? Pierre Montel, je vous écoute, je sens que vous avez envie de parler.
C'est difficile à distance. Bonjour, bonsoir à tous, Valère, Patrice. Je peux dire évidemment que pour le SNRL, c'est le départ d'un aboutissement, d'un combat de plus de 10 ans sur la numérisation de l'avenir en fait, de l'hertzien analogique, la numérisation hertzienne. Qu'il ne faut pas, on l'a vu ces 10 dernières années, opposer à la diffusion numérique par Internet, mais qui sont bien deux voies qu'on réclame comme étant complémentaires. Pour nous, c'est un soulagement, même si ça n'arrive pas assez vite, c'est un soulagement dans le sens où c'est la seule voie de diffusion qui semble garantir à la radio de ne pas être trop bousculée et de ne pas évoluer vers un avenir trop incertain, tout en se mettant au diapason des attentes numériques des auditeurs qui sont bien légitimes. Il faut se dire quand même, Patrice Gélinet a évoqué la TNT, que le premier métier de la radio, c'est quand même le son, et qu'on est la dernière industrie audiovisuelle ou musicale en France à utiliser toujours une voie de diffusion majoritaire qui est analogique. C'est pour nous un dossier qui a un retard considérable, qui a pris un retard considérable, pour différentes raisons qu'on va sans doute détailler assez rapidement, mais qui doit maintenant avancer efficacement. Et je dis ça pas tant pour le CSA qui est donc représenté par Patrice Gélinet, le CSA qui a pris le pas de manière proactive depuis son rapport du mois de janvier et avec le communiqué qui est sorti cette semaine, mais également pour les pouvoirs publics, pour le gouvernement, les ministères concernés, qui ont été interpellés dans le rapport du CSA à différents endroits, notamment sur le financement de la diffusion numérique pour les radios associatives, telles que Radio Campus Paris ou RAGE, qui est donc présente sur votre plateau, parce que c'est la grosse interrogation qui nous reste. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'annonce officielle du côté du gouvernement, et c'est notre principale préoccupation dans le cadre du déploiement programmé dans les mois à venir par le CSA.
Et vous, donc, Valère Coréard, pour RAGE, vous avez, vous êtes passé en RNT par elle il y a un an. Et pour vous, c'est une révolution également ?
Mais ça ne fait pas juste un an qu'on le dit. Et vous disiez que nous sommes une petite radio, c'est vrai, qui a peut-être d'ailleurs l'opportunité de grandir via la RNT. Mais dès que le groupe SOS a pris connaissance du dossier et on s'en est saisi dès 2011, en fait, en organisant une des premières expérimentations dans le cadre de la loi dites des radios libres, ça faisait 30 ans que cette loi avait été votée. Et je rejoins Patrice Gélinet là-dessus, c'est une révolution radiophonique qui est en train de se passer tout doucement. Si vous voulez, ça a été à l'époque l'occasion de symboliser ce temps fort. Mais aujourd'hui, oui, bien sûr, la RNT est l'avenir sans doute de la radio, en tout cas est un des grands canaux d'avenir de la radio. Je me posais juste une question en écoutant les différents intervenants. Finalement, il n'y a pas de contradicteur et ça fait quelques fois qu'on discute comme ça par médias interposés. Alors, je ne sais pas si vous en aviez invité, mais ce qui est clair, je trouve, c'est ce silence est assez assourdissant aujourd'hui des contradicteurs c'est qui, sûr. À part sur des communiqués de temps en temps, clairement du bureau de la radio, pour ne pas les nommer, on les entend assez peu. Et moi, j'aimerais beaucoup, et je profite d'ailleurs d'être là, ici avec vous, peut-être qu'on puisse de temps en temps débattre avec eux. Je les invite à venir débattre avec nous, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas eux ou nous, mais c'est l'intérêt général et l'avenir de la radio, concrètement.
Après avoir parlé de RNT, on va parler web radio et pas n'importe lesquelles. Les web radios prescriptrices de bonne musique, défricheuses de nouveaux styles parisiens. Ils nous ont rejoints en studio Pierre Zucolin.
Oui, bonjour, c'est
Pierre
moi.
Pierre Zucolin et David Oussadon de piaf.com. Et de l'autre côté de la table, Bertrand Nickel et Anders Sikre du Mélotron.com.
Bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous également Jonathan, programmateur à Radio Campus Paris.
Ouais, salut.
Qui est là aussi pour m'accompagner sur cette interview. Moi, je voulais juste vous poser une petite question sur ce qu'on vient d'entendre. Je sais que vous étiez en régie, vous avez un peu écouté ce qui s'est dit sur la RNT. Vous portez quel regard, vous, là-dessus ? Ça vous vous sentez concerné ? Vous aimeriez bien passer en RNT un jour ? Ou alors, vous êtes très très loin de ça ? Parce que vous êtes des web radios, hein, donc sur Internet.
Oui, enfin moi je pense que ça serait nous mettre tous au même niveau, en tout cas en termes de concurrence. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une différence entre la web radio et l'hertzien, forcément. Les gens ont une habitude de brancher leur radio, c'est un peu ce qu'ils disaient. Et ça serait bien qu'on puisse naviguer sur n'importe quelle radio, de la même manière que les applications qui existent comme TuneIn ou des choses comme ça, qui sont sur les mobiles. Si on pouvait avoir ça dans les voitures ou dans les maisons, enfin, ça existe déjà avec les box et la fibre.
Peut-être juste pour bien comprendre, peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est une web radio, peut-être pour ceux que c'est, ça a l'air peut-être évident, mais ça l'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Donc c'est une radio qui émet sur Internet.
Bah, c'est une radio que tu peux écouter sur un écran d'ordinateur, en fait.
D'accord.
Donc, ou sur une application, oui, peu importe l'écran, à partir du moment où tu as Internet, tu peux écouter ta radio sur...
Et du coup, la différence avec une radio classique hertzienne, c'est quoi exactement? C'est... On ne vous retrouve pas déjà sur le poste de radio,
ouais,
de
la voiture, tu veux dire. C'est anecdotique, ça, le fait qu'on ne nous retrouve pas. Oui, on ne nous retrouve pas, mais finalement, pour répondre un peu à ta question, parce que c'était le Mélotron qui disait que vous aimeriez bien, pour le coup, vous retrouver dans une voiture. Nous, on s'en fout un petit peu, en fait, d'être dans une voiture. Où, pour l'instant, on est très bien sur Internet, c'est ce qui fait notre singularité. On propose des programmes qui sont différents par rapport à toutes les radios FM. Et on est très content de ça.
Sachant aussi que tu peux te retrouver dans la voiture avec Internet, ton portable ou quoi que ce soit, hein. Évidemment.
Et que tu pourrais mettre. Donc tu penses qu'il y a vraiment une originalité, pardon, du format web radio dont tu...
Bah, forcément, regarde une radio comme le Mélotron, vous êtes dans un bar, c'est absolument génial. Vous étiez sur une péniche avant, ils invitent des mecs à mixer, ils ont fait un super setup pour les DJ sets. Voilà, il y a de l'originalité. Nous, on est dans un appart qu'on a entièrement sonorisé. On propose des programmes qui sont différents parce qu'on n'a pas de on a personne au-dessus de nous qui nous dit quoi faire. On diffuse la musique qu'on veut. Et ce qui est cool, c'est qu'on voit qu'au quotidien, on a des gens qui viennent chez nous. Et on a des audiences qui nous plaisent, quoi. Du coup, on ne s'attendait pas du tout à faire des chiffres qui sont certes encore relativement confidentiels, mais qui aujourd'hui nous conforte dans l'idée qu'on peut aller encore plus loin et tout en étant sur Internet.
Et... Oh non.